La revue de presse est avec vous. Bonjour Jean-Philippe Ballas.
Bonjour à tous.
Et ce matin, on ne parle que d'elle dans les journaux.
Oui, pourtant, vous ne verrez pas sa photo et vous ne lirez pas son nom de famille. Mais vous sentirez à quel point elle était aimée de tous, raconte Le Parisien aujourd'hui en France. Elle s'appelait Stéphanie, elle avait 49 ans. Fonctionnaire de police, tuée à coups de couteau hier à l'entrée du commissariat de Rambouillet. Destin tragique d'une femme exemplaire, souriante, discrète. Elle était notre système nerveux, racontent ses collègues. Partout, à la une de Libération, du Figaro, des DNA, du Courrier Picard, où l'on décrit une rue pavillonnaire d'ordinaire tranquille du sud de l'Île-de-France, et ce bâtiment à dimension humaine, où tout le monde se connaît. Stéphanie n'était pas armée. Elle s'occupait du secrétariat de direction. Son bureau était au premier étage. Elle y avait posé une photo de ses deux filles, de 13 et 18 ans, dont elle était très proche. Les week-ends, elle faisait aussi la comptabilité de son mari, boulanger dans une ville voisine, nous dit Libération. Et à travers elle, c'est une nouvelle fois la police qui est ciblée, frappée, titre vos journaux. L'effroi, l'horreur, encore pour la Provence et la Marseillaise. En première page de la Charente libre, du Républicain Lorrain, du Dauphiné libéré. Pourquoi la police, se demande Le Figaro? Parce qu'elle est le symbole de l'État mécréant dans l'idéologie djihadiste, répond le spécialiste du Moyen-Orient, Bernard Rougier. Si la piste terroriste se confirme, note Le Monde, il s'agira du 11e attentat visant des policiers, le 11e en 7 ans.
La police, mais également la justice dans nos journaux ce matin.
Oui, justice laxiste, expression souvent entendue ces derniers jours. D'abord avec le meurtrier de Sarah Halimi et cette décision d'irresponsabilité pénale. Ensuite avec une série d'acquittements dans l'attaque des policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016. Et un homme sort de sa réserve ce matin. C'est François Molins, procureur général près de la Cour de cassation. Il répond aux questions du journal Le Monde et aux accusations de ne pas assez protéger les forces de l'ordre ou d'accorder un permis de tuer les juifs. Insupportable, outrageant, rétorque François Molins, qui tente la pédagogie. L'état de droit a pour objet d'éviter l'arbitraire. Le cadre est strict. Il reconnaît néanmoins, l'émotion suscitée révèle sans doute que la loi n'est pas adaptée. Le gouvernement envisage une modification. Mais François Molins met en garde, il ne faut pas légiférer dans l'urgence et sous le coup de l'émotion. La question de la responsabilité pénale est des plus délicates. Ne pas oublier, dit-il, que le fait de ne pas juger les fous a été un progrès majeur dans notre démocratie. Un entretien un peu difficile à résumer, mais que je vous encourage à lire ce matin sur le site du Monde.
Et autre défense dans la presse ce matin, celle d'un vaccin.
Et qui en a bien besoin, le AstraZeneca, la une de la Voix du Nord, est saluée par une flopée de spécialistes. C'est un oui unanime, titre le journal. Je l'ai conseillé à mon propre fils qui est chirurgien, confie le professeur Philippe Amouyel du CHU de Lille. Il n'y a pas à se poser de questions, renchérit le patron des urgences, Patrick Goldstein. Vu la probabilité de développer des effets secondaires graves, il est clairement plus dangereux de prendre le volant ou même de traverser la rue, dit-il. Le problème, c'est que la communication en France a été très mauvaise, regrette le professeur Philippe Frogel. Oui, mais désormais la raison doit l'emporter sur la peur, estime de son côté Daniel Camus, l'infectiologue à l'Institut Pasteur de Lille, qui comprend tout à fait que les gens puissent s'interroger. Mais quand on prend le temps d'expliquer les choses, le chercheur en est convaincu, même les plus réticents changent d'avis. Et puis, et c'est peut-être le plus important, la vaccination, dit-il, est une affaire collective. Collective, oui, le mot résonne lorsqu'on parcourt les colonnes de Ouest-France ce matin. Entretien éclairant avec le philosophe et écrivain suisse Alexandre Jolien, qui vous dit qu'on se vaccine pour passer l'hiver, certes, mais aussi par solidarité, pour protéger les plus vulnérables. Sacré combat dans une société individualiste. Et le penseur de s'insurger contre la dictature du « moi-je », d'urgence, il faut réhabiliter le « nous », un peu comme si nous étions chacun un guichet d'accueil, oui l'image est un peu originale, un guichet pour recevoir l'autre sans jugement, sans la peur. Il y a du boulot, Alexandre Jolien, d'accord. Sans verser non plus dans un optimisme béat, il vous dit que l'imprévu peut aussi devenir le lieu de l'émerveillement. Vous avez 4 heures.
Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un bon bouquin, non?
Tout simplement, Patricia. Et puis, excellente idée en ce jour de fête de la librairie indépendante, largement célébrée par Libération. Ces librairies qu'on disait moribondes, prêtes à succomber aux grandes surfaces, aux livres électroniques, au confinement, on les disait commerce non essentiel. On disait surtout n'importe quoi, constate le journal, qui rend hommage à ce métier de libraire qui représente le mieux, paraît-il, l'exception française, avec celui de caviste, note le journal. Une belle page d'histoire également sur le site d'AOC et sous la plume de Jean-Yves Mollier qui traverse les époques. Tour à tour, bibliothécaire, archiviste, copiste, calligraphe, commerçant itinérant, parcheminier, enlumineur, relieur. de la tablette d'argile de Mésopotamie à l'écran plat de la liseuse du XXIe siècle. Il a fallu s'adapter sans cesse pour poursuivre dans des environnements en perpétuelle mutation. Grâce notamment au prix unique du livre, idée de Jack Lang en son temps, rappelle Libération. Bref, si les Français ne sont pas forcément de grands lecteurs, ils adorent leur librairie et ses petits morceaux d'aventures humaines.
Et Thomas Pesquet qui a emporté sa liseuse, paraît-il, pour mieux lire dans l'ISS. Merci Jean-Philippe Ballas et à demain.